Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonsoir. Le grand écart s'accentue en Espagne ce soir. 3 semaines après le référendum d'indépendance en Catalogne, Madrid demande la destitution du gouvernement régional. C'est historique, Mariano Rajoy enclenche l'article 155 de la Constitution. Mathieu de Taillac sera en direct au début de ce journal, puis nous serons à Barcelone avec Isabelle Laberry. Déclaration du président catalan Carles Puigdemont attendue dans la soirée, mais dès maintenant, ses partisans sont dans les rues de Barcelone. En République tchèque, la victoire aux élections législatif se précise pour le milliardaire Andrej Babiš et son parti populiste. Analyse à suivre du spécialiste de l'Europe, Martin Michelot. Enfin, en France, 8 jeunes issus de l'ultra-droite ont été présentés à un juge d'instruction ce matin. Ils sont soupçonnés d'avoir préparé des actions violentes contre des personnalités et des mosquées. Les précisions de Jean-Philippe Deniaud à la fin de ce journal. Mariano Rajoy passe donc des menaces à l'exécution face au blocage de la crise en Catalogne. Le chef du gouvernement espagnol a pris des mesures fortes à l'issue du Conseil des ministres extraordinaire de ce matin, en invoquant l'article 155 de la Constitution, article jamais utilisé jusqu'à présent. Il demande la destitution du gouvernement sécessionniste de Carles Puigdemont. Bonsoir Mathieu de Taillac.
Bonsoir Anne.
Vous êtes notre correspondant en direct de Madrid et vous nous détaillez le processus enclenché ce midi.
Bien, Mariano Rajoy a donné le détail des mesures qu'il entend appliquer en Catalogne pour, selon son expression, rétablir la légalité et la normalité dans la région. Alors, Rajoy va réclamer au Sénat de l'autoriser à destituer le président catalan, son vice-président et l'ensemble de leurs ministres régionaux. Leurs pouvoirs seront exercés directement par le gouvernement espagnol. Rajoy souhaite pouvoir convoquer lui-même des élections en Catalogne. Il aura pour cela un délai maximum de 6 mois, mais on parle d'un calendrier plus resserré. Les partis politiques évoquent des élections anticipées dès janvier 2018. Quant au Parlement catalan, il continuera d'exercer sa fonction représentative, a déclaré Rajoy, mais il ne pourra pas investir un nouveau président catalan, ni prendre de mesures contraires à la loi, ni à la Constitution espagnole. Rajoy, enfin, compte prendre le contrôle de la police régionale, dont la loyauté a été mise en cause. Il veut, enfin, le sujet délicat, garantir le pluralisme des médias publics catalans, notamment la télévision, TV3, qui a été accusée de partialité.
Alors toutes ces mesures, Mathieu, elles doivent encore être validées par le Sénat espagnol la semaine prochaine. Mariano Rajoy a-t-il toujours le soutien des principaux partis politiques ?
Alors oui, la formation de Rajoy, le Parti populaire, le PP de droite, a la majorité absolue au Sénat. Mais en plus, Rajoy est parvenu à faire une quasi-unité nationale sur le sujet. Le Parti socialiste, c'est le PSOE, et Ciudadanos, ce sont les centristes, sont d'accord pour activer ces mesures en Catalogne. Et en face, il n'y a que les groupes nationalistes basques ou catalans et la gauche radicale, Podemos, pour s'opposer à ces mesures jugées trop belligérante ou liberticide. Le bureau du Sénat va commencer par examiner les mesures en commission, les transmettre à une commission, puis il devra écouter les arguments du président catalan avant de les voter. Ce sera lors d'une séance plénière qui était programmée en effet vendredi prochain.
Merci Mathieu de Taillac pour vos explications en direct de Barcelone. J'ajoute que la page web de la Cour constitutionnelle espagnole a été bloquée cet après-midi par une attaque informatique. Blocage qui fait suite à des menaces du groupe activiste Anonymous. Direction maintenant la Catalogne. Comment Barcelone reçoit ces déclarations de Madrid? Le président de la région, l'indépendantiste Carles Puigdemont, s'exprimera dans la soirée à 21h. Une manifestation est organisée par ses partisans en ce moment même dans les rue de Barcelone. Bonsoir Isabelle Laberry, vous nous décrivez le climat dans la capitale régionale ce soir.
La foule continue d'arriver en rang extrêmement serré, brandissant les drapeaux rouges et jaunes frappés d'une étoile, déroulant d'immenses banderoles pour la défense de la démocratie. Certains manifestants ont également épinglé à leur poitrine un petit ruban jaune contre la détention des deux Jordi, les deux leaders des associations indépendantistes catalanes. Chaque fois qu'un hélicoptère de la police survole la zone, on entend des huées, des sifflets contre Madrid. Après le discours de Mariano Rajoy, il y a beaucoup de colère dans les rangs des indépendantistes. Montserrat, 69 ans, ingénieur chimiste, est venu manifester avec ses amis.
Il parle toujours de la légalité, de la constitutionnalité, de la loi, mais il veut faire maintenant une chose qui n'est pas constitutionnelle, parce qu'il veut quitter tous les gouvernements de la Catalogne et les substituer par un gouvernement de Madrid. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commander les Catalans de Madrid. Ça, c'est une humiliation, de la colère aussi. C'est absolument fou, fou.
Ce que les séparatistes attendent maintenant, c'est la réplique de leur président. Une déclaration d'indépendance en bonne et due forme. Carlos Puigdemont doit prendre la parole à 21h tout à l'heure depuis le palais de la Generalitat.
Merci Isabelle Labéry pour votre reportage depuis Barcelone. En République tchèque, les premières projections de l'élection législative sont tombées cet après-midi. Résultat encore partiel donc, mais sans surprise, le scrutin est dominé par le parti populiste ANO. L'homme d'affaires à sa tête, l'eurosceptique Andrej Babiš, remporterait près de 30% des voix devant l'extrême droite. Écoutez l'analyse du chercheur Martin Michelot. Il est le directeur adjoint du think tank Europeum, institut basé à Prague et spécialisé dans les questions européennes.
L'ennemi européen, c'est une création complètement artificielle en République tchèque, ce qui peut expliquer un euroscepticisme relativement élevé, parce qu'il y a vraiment très très peu d'autres choses dont il faut se plaindre dans un pays où on a moins de 4% de chômage, plus de 4% de croissance, où la monnaie est encore forte. Il n'y a pas une stratégie arrêtée de Andrej Babiš sur l'Europe. Il y a une stratégie qui est celle de dire on va continuer à refuser les politiques migratoires, mais en fin de compte, Andrej Babiš, c'est quelqu'un qui a profondément ses intérêts personnels en tête et qui sait pertinemment bien que l'Union européenne pour lui est un objet crucial. Donc quand Miloš Zeman, le président, dit « je préfère ne plus avoir de fonds structurels européens plutôt que d'avoir des migrants », c'est quelque chose sur lequel Babiš, lui, ne peut pas s'aligner. Parce qu'il sait très bien que l'Union européenne est une condition nécessaire de la prospérité du pays, mais aussi de sa prospérité personnelle.
Des propos recueillis par Alexis Rosenzweig, le correspondant de RFI pour France Culture. À Kaboul, une nouvelle attaque suicide a fait 15 morts ce matin. Ce sont de jeunes recrues de l'armée afghane qui ont été tuées. Ces militaires quittaient leur école de formation en minibus pour rentrer chez elles quand un piéton s'est fait exploser. 7e attentat depuis le début de la semaine dans le pays, ce qui porte à plus de 200 le nombre de victimes. Au Niger, ce sont des gendarmes qui ont été visés par un commando armé venu du Mali il y a 13 morts et au moins 5 blessés. Et puis en Égypte, le ministère de l'Intérieur rectifie les chiffres des sources médicales après l'attentat d'hier dans le désert de Libye. Ce sont 16 policiers qui ont été tués et 13 autres blessés. Dans ce contexte tendu, l'Égypte a célébré ce matin le 75e anniversaire de la bataille d'El Alamein. C'était en 1942, importante victoire alliée sur les nazis. L'ambassade britannique a coordonné cet événement au nom des alliés dans cette commune près d'Alexandrie, placée pour l'occasion sous très haute protection. En France, 4 mois après l'interpellation de Logan Nizine, ancien militant de l'Action française Provence, une organisation royaliste, 8 suspects, dont 3 mineurs, ont été présentés aujourd'hui à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen. Leur groupe prévoyait des actions violentes contre des hommes politiques et des mosquées. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes. Les précisions de Jean-Philippe Degnaud.
Les 8 suspects appartiennent à l'OAS, l'organisation fondée par Logan Nizine, avec ce sigle reprenant celui de l'armée secrète qui avait mené une campagne d'action violente contre l'indépendance de l'Algérie dans les années 60. L'OAS de Nizine, elle, avait également pour but de commettre des actions violentes pour, je cite, « enclencher la remigration de la France », mais les projets avaient encore des contours imprécis, indique une source proche du dossier. Le groupuscule visait en vrac des mosquées, des personnalités d'origine nord-africaine ou noire, des militants antifascistes, et des hommes politiques, dont Christophe Castaner et Jean-Luc Mélenchon. Nizine et au moins 2 des hommes interpellés cette semaine avaient également dérobé un véhicule le 21 juin dernier avec l'intention de racketter des chefs d'entreprise pour financer leur OAS et acheter des armes. D'ailleurs, la plupart des 5 adultes présentés à la justice sont des amateurs de tir sportif et possèdent déjà des armes en toute légalité. En tout cas, les magistrats prennent au sérieux les visées terroristes de ce groupuscule bien plus que le ministre de l'Intérieur, qui déclarait jeudi que ce n'était pas la bande la plus sérieuse arrêtée ces derniers temps.
Explication signée Jean-Philippe Degnaud. Christine Boutin, la passionnariat aux valeurs conservatrices, a mis fin à sa carrière politique. Elle l'a annoncé ce midi au siège de son parti chrétien-démocrate à Rambouillet. Christine Boutin démissionne donc de son mandat de conseillère départementale dans les Yvelines. L'ex-candidate à la présidentielle de 2002 souhaite désormais nourrir sa foi en étudiant la théologie. Plusieurs milliers de motards ont manifesté aujourd'hui à Paris et dans plusieurs villes de France. Ils protestent contre les mesures de restriction de la circulation prévues dans les dispositifs anti-pollution adoptés dans certaines agglomérations. Et puis, 2 représentantes du collectif Facebook Agir pour le retour de l'ancienne formule Levothyrox ont été reçues cet après-midi au ministère de la Santé. Une 100aine de malades de la thyroïde étaient venus protester devant le ministère cet après-midi. Ils veulent savoir ce qu'il y a réellement dans la nouvelle formule du médicament et obtenir des rapports de pharmacovigilance lisibles. La météo de demain, dimanche 22 octobre, temps toujours ensoleillé sur les bords de la Méditerranée. Ça s'améliore sur une grande moitié ouest avec le retour d'un ciel plus lumineux, mais toujours des nuages et de la pluie en région parisienne, Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Les températures, il fera 9 à Strasbourg, 11 à Lille et Paris, 12 à Brest, 13 à Lyon, 14 à Bordeaux et jusqu'à 18 degrés à Menton. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau à la technique. C'était Jean Frédérix.